RCF.
RCF Isère, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La valeur de l'homme, Auschwitz, une émission en deux parties, dont c'est aujourd'hui la première partie. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Valeur de l'Homme. Auschwitz est un nom propre, devenu le nom commun de la Shoah. Le nom du camp qui résume à lui seul la mise à mort industrielle des Juifs sur le continent européen par l'Allemagne nazie. C'est en effet à Auschwitz que furent gazés plus d'un million de Juifs, auxquels il faut ajouter l'assassinat de plus de 140 000 Polonais, d'environ 23 000 Tziganes et de 15 000 soldats soviétiques, plus 69 000 Français. Auschwitz-Birkenau incarne la centralisation géographique de la mise à mort. À partir du moment où les nazis considérèrent qu'il était plus efficace de faire venir dans les camps les juifs des pays conquis plutôt que de les tuer là où ils étaient. Même si jusqu'à 100 000 personnes pouvaient être détenues en même temps dans le camp, Auschwitz n'était pas qu'un camp de concentration, mais bien un camp d'extermination. Et la quasi-totalité de ceux qui arrivaient au camp ne le voyaient même pas et étaient immédiatement tués dans un ensemble de chambres à gaz situées à l'écart. Auschwitz incarne l'idéologie nazie, celle de l'antisémitisme et de la destruction de l'homme. Il est le point ultime où conduit la haine de l'autre, un traumatisme pour l'Europe dont le spectre la hante toujours. Pour s'approcher au plus près d'Auschwitz, j'ai invité Tal Brutmann, auteur d'un ouvrage intitulé Auschwitz, publié aux éditions La Découverte en 2015. Bonjour Tal Brutmann.
Bonjour.
Tal Brutmann, vous êtes historien, spécialiste de l'antisémitisme d'État, et en 2010, vous avez notamment été commissaire de l'exposition « Spoliée, l'arianisation économique en France 1940-1944 », qui était une exposition qui avait été présentée dans l'ancien palais de justice de Grenoble. Et vous signez donc aujourd'hui un livre sur Auschwitz. Ce livre est un très dense essai et une synthèse des connaissances accumulées sur Auschwitz. On y apprend des choses à chaque page sur la ville d'Auschwitz avant la construction du camp, puis sur le camp lui-même et ses usages évolutifs, car il n'a pas eu tout de suite sa forme définitive et il n'est pas figé dans l'image qu'on peut en avoir. Il fallait donc faire ou refaire une histoire précise de ce lieu d'extermination, une vaste histoire à laquelle vous joignez aussi d'ailleurs des trajectoires individuelles de gens pris dans ce cataclysme. Dans votre conclusion, vous écrivez, et on va partir de là, Auschwitz s'est peu à peu imposé comme le principal paradigme, le point central des représentations, aussi bien de la solution finale que de la politique concentrationnaire, au point que ses spécificités sont devenues des généralités, brouillant très largement la compréhension historique qu'on pouvait en avoir. On va essayer aujourd'hui, avec vous, de faire au fond le portrait de ce camp. Alors, première question pour commencer. Auschwitz, avant d'être un camp, c'est d'abord une ville en territoire polonais. Qu'avait de particulier cette ville? Pourquoi a-t-elle été choisie par les nazis pour y implanter ce camp d'extermination?
C'est une ville en territoire polonais, mais aussi en territoire allemand, et c'est déjà un des principaux éléments qui permettent de comprendre l'histoire qui va s'y dérouler pendant la guerre, tout simplement parce que c'est une ville créée par la royauté polonaise au XIIe siècle, mais qui se trouve aux confins entre l'Europe qu'on pourrait appeler germanique, c'est-à-dire les territoires sous influence germanique et les territoires sous influence polonaise ou slave. Et ce territoire-là, qu'est Auschwitz, et qui est un duché à l'origine, va en permanence être disputé entre ces deux influences, germanique et slave, tout simplement parce qu'on se trouve à la fois à la limite frontalière entre Europe orientale et occidentale, et parce que c'est un endroit où passent les grandes routes commerciales pendant le Moyen-Âge ou la Renaissance. Et à partir du XIXe siècle, quand est inventé le train, une voie ferrée vient s'y implanter tout naturellement, puisque ça suit les principales voies commerciales. C'est ce qui déjà donne d'emblée une importance stratégique à cette ville, mais pendant quasiment 10 siècles, depuis sa création, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, en septembre 1939, quand l'Allemagne envahit la Pologne, la défait et annexe une grande partie de l'ancien territoire polonais au Troisième Reich, Auschwitz se retrouve à nouveau un territoire frontalier, cette fois à l'extrême limite orientale, mais du Troisième Reich, de l'Allemagne à proprement parler. Ce qui fait qu'on a à la fois une ville stratégique, une ville qui va être investie par le régime nazi, par Heinrich Himmler, d'une dimension très importante, puisqu'elle doit devenir une ville modèle de la reconquête allemande vers l'Est, puisque les Allemands ont une tradition historique là aussi millénaire de conquête vers l'Est, de colonisation vers l'Est. Mmh. Et donc Auschwitz doit devenir un porte-étendard de cette reconquête germanique vers l'Est. C'est pour cette raison qu'il va y avoir une première dimension qui va être insufflée à la ville, et c'est cette première dimension qui va jouer un rôle moteur dans toute la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît Auschwitz en raison du camp. Quand on dit Auschwitz, on pense au camp. Mmh. En fait, quand on dit Auschwitz en septembre 39 ou même en 1940, c'est le nom allemand d'une ville qui s'appelle en polonais Oświęcim, et même qui a un troisième nom en yiddish qui est Auschwitzin. Une ville qui a trois identités, et c'est l'identité allemande qui est remise sur le devant de la scène à partir de la fin de l'année 39, qui joue un rôle moteur pour trois raisons. Ville de la reconquête germanique, ville qui va avoir une dimension industrielle très importante parce qu'on est en Silésie, parce qu'il y a des mines autour et que la ville doit être développée avec des colons allemands qui viennent s'installer.
Alors, on va en dire un mot de ça.
Et il y a des mines autour, donc ça permet d'attirer l'industrie. Et en plus, la ville, dans son nouveau quartier qui s'est créé à la fin du 19e siècle autour de la gare, dispose d'une sorte de cité qui est devenue une garnison après l'indépendance de la Pologne en 1918, garnison qui est investie par les Allemands cette fois et qui en avril 1940 est vue comme le lieu idoine pour y installer un camp de concentration qui va être littéralement amarré à la ville d'Auschwitz. En fait, le camp n'est pas isolé, le camp d'Auschwitz fait partie de la ville Auschwitz et c'est l'interaction de cet ensemble, la ville, les industries qui doivent s'y implanter et ce camp qui vont donner ce qu'on a fini par connaître nous à partir de la fin de la guerre.
La ville a, semble-t-il, enfin historiographiquement, disparu derrière le camp. Alors je voudrais quand même qu'on essaye de voir précisément cette ville dont vous venez de nous raconter un peu l'histoire. Elle va, et vous l'avez dit, pour le Troisième Reich, devenir une ville modèle, à côté du camp, à l'écart du camp, ailleurs, autour. Et alors, on apprend dans votre ouvrage qu'on va effectivement y envoyer des colons, on va y installer des industries, on y installe IG Farben, qui est la grande entreprise industrielle. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de cet événement, de ces éléments-là ?
En fait, on a... Et c'est là toute la nécessité d'essayer de penser froidement cet événement historique comme chaque événement historique. On a affaire à un projet planifié par un État, en l'occurrence le Troisième Reich, et planifié par tout un ensemble de scientifiques, des architectes qui vont projeter la réurbanisation d'Auschwitz, selon un modèle fantasmé germanique, des industries, etc., etc. Et de fait, parce que le lieu est idéal avec ses mines de charbon alentour de Silésie, avec ses bassins hydrauliques qui sont tout autour, pour la pétrochimie, Auschwitz apparaît comme un lieu parfait. Et IG Farben, que vous avez évoqué, est la principale industrie allemande à l'époque, c'est même la quatrième industrie mondiale à l'époque. IG Farben va y voir une immense opportunité et venir installer, à partir de la fin de l'année 1940, un immense projet de pétrochimie qui va avoir pour nom la Buna, c'est-à-dire une sorte de fuel synthétique qui doit être développé pour pallier les manques du Troisième Reich. Et l'installation d'IG Farben va continuer un effet d'entraînement que j'ai essayé de dépeindre juste avant. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'IG Farben, l'industrie a besoin de bras. Ça tombe bien, il y a un camp à côté. Donc la SS va sous-louer cette main-d'œuvre à IG Farben, puis ensuite aux autres entrepreneurs ou industriels allemands qui viennent s'installer. Et vous avez une interaction permanente qui, à partir de la fin 40, début 41, se met en place dans Auschwitz. Et il faut entendre Auschwitz comme un espace géographique où vous trouvez une ville, des camps et des industries. Et tout ceci interagit. La présence du camp permet les travaux de construction et développement de la ville où arrivent les colons et dont sont chassés les Juifs et ensuite les Polonais. Les détenus sont astreints au travail dans les usines qui sont en cours de construction ou qui commencent même à fonctionner très rapidement, etc. etc. Et c'est cette interaction entre plusieurs éléments qui a priori n'ont rien à voir qui font qu'on a cet espace très particulier qui se crée, mais en même temps, et ça permet de revenir directement sur votre question, c'est une dimension qui avait longtemps disparu dans les études historiques et qui depuis une quinzaine d'années est remise sur le devant de la scène par les historiens. C'est la liaison entre les camps et les villes. L'immense majorité des camps sont à proximité de grands centres urbains ou parfois de petits centres urbains, voire de villages, mais il y a une interaction permanente. Berlin, il y a un grand camp de concentration à côté, c'est Sachsenhausen. Buchenwald, c'est Weimar, etc., etc. Et c'est la même chose avec le camp de concentration d'Auschwitz, qui est, lui, a le même nom que la ville d'Auschwitz.
Alors c'est vrai parce qu'on a eu tendance à voir les camps comme des sanctuaires et au fond très coupés des géographies ou des lieux qui les accueillent. Alors ce camp, si on se recentre sur lui, ce camp d'Auschwitz, il a une histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas immédiatement servi à l'assassinat des populations juives, il a d'abord accueilli un certain nombre de populations. Est-ce qu'on peut refaire rapidement l'histoire de ces populations successives ?
En fait, vous venez avec votre question pointer du doigt une incompréhension qui pèse depuis la fin de la guerre, en fait, et qui est au cœur des représentations jusqu'à aujourd'hui en permanence, c'est la question des Juifs et des camps de concentration. Pour le dire d'une façon assez lapidaire, pour le régime nazi, les Juifs n'ont jamais été destinés aux camps de concentration. Les politiques antisémites, jusqu'aux plus meurtrières, c'est-à-dire la solution finale, n'ont jamais eu pour place les camps de concentration. L'usage des camps de concentration dans le Troisième Reich a deux vocations. Initialement, c'est un lieu avec évidemment plein de guillemets, de rééducation, c'est-à-dire les membres de la population allemande, entendre aryenne dans la langue nazie, qui sont jugés comme étant déviants, les opposants politiques, ce qu'ils appellent les asociaux, qui est un vaste fourre-tout, etc., etc. Et puis dans un deuxième temps, particulièrement à partir du déclenchement de la guerre, ça va être un lieu qui va permettre de mettre en place une politique de terreur contre les populations occupées. En l'occurrence, dans l'ancien territoire polonais, la nation polonaise a vocation à devenir une population d'esclaves au service du Troisième Reich. Il faut briser littéralement les reins de la population polonaise. Et deux grands camps de concentration, un au nord, à côté de la ville polonaise de Gdansk, mais qui à l'époque s'appelle Danzig. Un camp est créé là, il s'appelle le Stutthof, non pas le Struthof en Alsace, mais le Stutthof. Et au sud, en Silésie, vous avez la création d'Auschwitz. Et ces camps qui sont en Allemagne, il faut insister là-dessus, la Pologne n'existe plus et on est dans des territoires annexés au Troisième Reich. Ces camps ont pour vocation de détenir des otages, c'est-à-dire des gens dont la détention va permettre de terroriser leurs familles, leurs amis, le restant de la population polonaise. Et c'est l'usage premier à partir d'avril 1940 du camp d'Auschwitz. C'est le grand camp de la répression anti-polonaise. On estime que sur les 200 000 personnes qui ont été envoyées à Auschwitz en tant que détenues, environ les trois quarts, c'est-à-dire jusqu'à 150 000, sont des Polonais. Ça vous donne la dimension que joue Auschwitz dans le rôle des politiques anti-polonaises mises en place par le Troisième Reich. Et en fait, Auschwitz va commencer à fonctionner en tant que camp répressif anti-polonais pendant plusieurs mois. Ensuite, il va se voir injecter de nouvelles politiques, tout simplement parce qu'il est idéalement placé. On n'est pas très loin de la frontière avec l'ancienne Tchécoslovaquie qui a été dépecée par le régime nazi, et donc Auschwitz va aussi être utilisé en tant qu'instrument pour les politiques anti-tchèques. Et puis à partir de l'été 41, Auschwitz, et c'est là où il va y avoir un premier bond qualitatif et quantitatif dans le camp, Auschwitz va être désigné comme camp pour les prisonniers de guerre soviétiques, puisque Barbarossa, l'invasion de l'URSS, vient de commencer. Et en fait, Himmler décide qu'un deuxième camp doit être construit, un camp satellite, mais qui cette fois est d'une dimension totalement inédite. Le camp d'Auschwitz était un camp de 15 000 places, et s'en faisait déjà en 1940 le plus grand de tous les camps de concentration. À l'été 41, Himmler décide de construire un camp satellite, cette fois de 200 000 places, et qui doit être érigé sur le village qui se trouve à proximité de la ville d'Auschwitz, qui s'appelle en allemand Birkenau.
Donc c'est un camp monstre, c'est-à-dire que c'est vraiment un camp aux dimensions absolument inédites, destiné à accueillir des populations très importantes, en masse.
En masse, mais pas des populations, pour le coup, une population, au moment où le projet est pensé, la population qui est les prisonniers de guerre soviétique. Une catégorie bien identifiée et qui commence à arriver là à partir de l'été 41. Et en fait, l'arrivée des prisonniers de guerre soviétique va jouer plusieurs rôles très importants dans le développement d'Auschwitz. Juste un exemple pour pas trop rentrer dans les détails, mais les soviétiques vont connaître un régime de détention totalement hallucinant. Ils vont mourir en masse. Sur les 10 000 premiers prisonniers qui arrivent, il y en a plus de 9 000 qui meurent en quelques semaines. Ça vous donne une idée du caractère hautement meurtrier de la réalité qui leur est réservée, avec une conséquence très particulière. Vu que les détenus soviétiques sont dénués de tout, les SS ne leur donnent rien, à peine à manger, à chaque fois que l'un des prisonniers soviétiques meurt, ses camarades récupèrent ses vêtements. Or, en récupérant les vêtements des morts, ils font disparaître le numéro de matricule qui figure sur ce qu'on appelle les pyjamas, c'est-à-dire la tenue de ce qu'on appelle en France les déportés, en fait les détenus. Or, pour les SS, qui sont des fonctionnaires, ça pose un problème, ça fausse leur comptabilité, leurs statistiques en matière d'effectifs. Et du coup, à la fin de l'année 1941, les SS d'Auschwitz ont une idée. Puisqu'il n'y a pas moyen d'identifier les soviétiques en raison de cette récupération systématique de vêtements, on va tatouer les détenus soviétiques. Comme ça, quand ils meurent, c'est pas grave s'ils sont nus, on va immédiatement les identifier. Et à partir de fin 1941, le tatouage est introduit à Auschwitz. C'est une particularité propre à Auschwitz qui va rester à Auschwitz, mais qui fait aussi la spécificité d'Auschwitz. Mais cet exemple-là vous montre que le tatouage, qui est souvent identifié avec les déportés juifs qui ont été envoyés vers Auschwitz, en fait, n'est pas dû à la solution finale. Le tatouage est dû à une autre catégorie de prisonniers, les soviétiques.
Les soviétiques, et c'est à ce moment-là qu'on va inventer le tatouage sur les avant-bras. On va venir dans un instant sur l'extermination des juifs. La valeur de l'homme, Auschwitz, on est en compagnie de Tal Brutmann pour son ouvrage intitulé Auschwitz, paru à la découverte en 2015. Alors, avant de voir le sort réservé aux Juifs, peut-être un mot sur le statut des Tziganes, qu'on connaît mal et qui est un statut un peu différent des populations qu'on vient d'évoquer. Quand les Tziganes arrivent dans le camp, ça se passe un tout petit peu différemment pour eux.
En fait, la question des Tziganes sous le Troisième Reich est une question très complexe. Qu'il est très difficile d'expliquer rapidement, mais de façon assez schématique pour les nazis. Initialement, les Tziganes sont considérés comme des Aryens, c'est-à-dire qu'ils sont indo-européens de fait, et pour les nazis, notamment pour Himmler, ce sont des Aryens. Alors, il va y avoir plusieurs théories qui vont être échafaudées. Certains hiérarques nazis vont décider qu'il faut tuer les Tziganes, et c'est ce qui va se passer dans certains territoires comme en Biélorussie. D'autres, à commencer par Himmler, vont décider que non, au contraire, il faut préserver les Tziganes, ce qui fait que, par exemple, en France, il n'y aura pas de politique anti-Tzigane mise en œuvre par l'occupant. Et en ce qui concerne Auschwitz, le site va se voir conférer une mission très particulière, c'est-à-dire que le site va être désigné par Himmler, justement, à la fin de l'année 1942, comme le point de concentration au sens propre des populations tziganes du Grand Reich, c'est-à-dire l'Allemagne telle que les nazis l'ont reconstruite durant la guerre, l'Allemagne dans ses frontières de 1933, et puis ensuite l'Autriche, l'Alsace, etc., etc., tous les territoires annexés. Et à partir du début de l'année 1943, tout au long des mois qui suivent, 23 000 tziganes, essentiellement du territoire de cette Allemagne agrandie, vont être envoyés vers Auschwitz, regroupés dans un lieu qui se trouve dans le camp de Birkenau. En fait, le camp de Birkenau est une succession de camps. Ce n'est pas un camp unique, c'est une succession de sous-camps, une quinzaine de sous-camps. Et l'un de ces sous-camps va prendre pour nom le camp des Tziganes. 23 000 Tziganes vont être regroupés là dans des conditions qui sont les conditions les plus meurtrières réservées à des populations hormis les Soviétiques et les Juifs. En fait, sur les 23 000 Tziganes qui vont être envoyés là, on estime que 19 000 vont mourir des conditions, du fait des conditions qui leur sont réservées, ce qui vous donne une idée du sort qui est réservé aux Tziganes. Il ne s'agit pas d'une politique d'assassinat au sens juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification de leur assassinat. Mmh. Il s'agit d'une politique meurtrière. On les envoie pour être regroupés dans un camp. Et les conditions qui leur sont faites sont telles qu'ils meurent en masse en quelques mois.
Un taux de mortalité considérable. Bon, c'est un camp mouroir. Je voudrais qu'on en vienne à l'extermination des Juifs. Et je vais rappeler peut-être l'idée la plus importante que vous avez indiquée en début d'émission, qui est que dans la politique nazie, il n'y a pas l'idée d'envoyer les Juifs dans des camps de concentration, mais bien de les exterminer à partir du moment où la décision de la solution finale est prise. Et c'est à ce moment-là que Auschwitz devient un camp d'extermination pour les Juifs. Et c'est à ce moment-là aussi que, progressivement, mais là aussi, il y a des inventions techniques très particulières. Vous avez indiqué l'invention du tatouage. Il y a l'idée qu'on va, pour exterminer les Juifs, construire des chambres à gaz. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'invention, c'est-à-dire de l'idée des chambres à gaz? Comment cette idée germe dans les esprits des responsables nazis?
En fait, il y a une filiation, et c'est là aussi toute la nécessité de ne pas isoler ce sujet comme malheureusement ça a été longtemps fait, c'est-à-dire de le sacraliser, de l'extraire de toute forme d'histoire. C'est que le sort des Juifs, il est spécifique évidemment, comme n'importe quel politique mise en œuvre par le Troisième Reich. En l'occurrence, il y a aussi tout un ensemble d'éléments qui permettent de comprendre ce qui se déroule. D'abord, en matière de décision d'assassinat, elle intervient au tournant de l'année 41-42, en tout cas selon les connaissances dont on dispose aujourd'hui en matière d'histoire. La politique d'assassinat, elle va être effectuée par le régime nazi, et là, d'une façon générale, sous deux formes. Une qu'on peut appeler, enfin ce qui a été appelé par l'historien américain Raoul Hilberg dès les années 60, les groupes de tueries mobiles, c'est-à-dire des équipes de tueurs qui se rendent là où habitent les Juifs et qui les exécutent sur place.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle.
Mais cette appellation est problématique, tout simplement parce que ça revient à confiner une dimension technique à un processus d'assassinat. Or, de fait, ces équipes de tueurs utilisent aussi bien des armes à feu que des camions à gaz.
Des camions à gaz, des camions mobiles. Hein, on amène.
On fait rentrer des gens à l'arrière d'un camion et les gaz d'échappement servent à l'asphyxie.
D'accord,
vous voyez qu'en l'appelant ainsi, on fait disparaître toute une dimension très importante et on essentialise la technique. Et c'est là une partie du problème pour comprendre la mise en œuvre du processus. D'une part, les groupes de tueries mobiles, et c'est là où c'est très important. Et d'autre part, à partir de fin 41, début 42, la mise en place de ce qu'on appelle des centres de mise à mort. Et là, je vais juste ouvrir une parenthèse. Depuis, à nouveau, c'est Raoul Hilberg qui a désigné ces lieux ainsi dans les années 60. C'est que l'expression utilisée en France jusqu'à aujourd'hui, non pas par les historiens, puisqu'ils se sont ralliés à l'appellation d'Hilberg, mais en général, à la fois dans les manuels scolaires, par les enseignants, dans les médias, de camp d'extermination, est une absurdité. Un camp, par essence, est un lieu où vous avez des gens qui y vivent comme un camp militaire, ou des gens qui y sont détenus comme un camp de concentration. Mais si vous exterminez des gens, de fait, il ne peut pas y avoir de vie dans un site. Ça, c'est le premier constat. Donc, camp d'extermination, c'est, on a affaire à un oxymore. Et d'autre part, la réalité de ces sites, c'est que on n'a pas de camp à proprement parler. Ce que vous venez de dépeindre à propos d'Auschwitz, la chambre à gaz, et je vais revenir sur la filiation de la chambre à gaz, mais quand vous regardez le site, les chambres à gaz et le système d'assassinat se résument en trois structures ou quatre structures. La voie ferrée où on débarque les Juifs, des chambres à gaz initialement qui se trouvent à 3 km de la voie ferrée qui n'ont aucun rapport avec le camp de concentration, et une zone d'entrepôt où sont entreposés justement les biens des victimes. Et ça s'arrête à ça. Et de fait, vous voyez que vous n'avez pas un camp, vous avez un centre, un lieu où vous avez une succession d'opérations et il n'y a rien d'autre. Maintenant, pour en revenir à votre question sur le gaz, en fait, on a affaire à quelque chose qui va se développer à nouveau avant même que Auschwitz se voit désigné comme lieu d'assassinat des Juifs, pour plusieurs raisons. D'abord, à l'été 41, dans le système concentrationnaire, il y est décidé une politique qui est celle de l'assassinat de certaines catégories de détenus, notamment ceux qui sont inaptes au travail, et ainsi que certaines catégories de prisonniers de guerre soviétiques, notamment les commissaires politiques. Et on voit à nouveau le rôle très important des soviétiques dans le développement d'Auschwitz. Dans tous les camps de concentration, on va tuer des milliers de détenus. Et à Auschwitz, les SS vont à la fin de l'été 41 avoir une idée. Plutôt que de recourir aux fusillades, justement, on va utiliser du gaz pour une raison très simple, c'est que les fusillades sont traumatisantes pour les bourreaux. Mmh. En fait, exécuter quelqu'un avec une balle ou même en le guillotinant ou par d'autres méthodes, c'est traumatisant, mais pour les bourreaux.
Oui. Parce qu'il y a un contact direct. C'est sanglant, on voit sa victime.
Il y a un contact avec la victime et c'est répulsif, ça traumatise, ça provoque des dépressions nerveuses, et je dis ça très sérieusement.
Oui, parce que les soldats ne voulaient pas faire ça. Enfin, un certain nombre d'entre eux considéraient que ce n'était pas leur mission d'assassiner des civils, ou en tout cas que l'honneur de l'uniforme se jouait ailleurs, en tout cas.
C'est un des éléments, mais l'autre élément, c'est que c'est proprement traumatisant. L'exemple le plus intéressant à cet égard, c'est Himmler, qui est le pire des antisémites du régime nazi avec Hitler. Himmler assiste à une fusillade de juifs à l'été 41 sur le front de l'Est, et il s'évanouit. Il ne s'agit pas d'une question de compassion ni d'humanité, avec le cas d'Himmler c'est évident, mais tout simplement parce que le spectacle est dégoûtant. Et donc Himmler va en tirer une conclusion: il faut protéger les tueurs pour pas qu'ils soient traumatisés. Du coup, il va demander à ses hommes de développer une technique idoine qui épargnerait les bourreaux, ce qui fait que des camions à gaz vont être envoyés pour les groupes de tueurs immobiles, mais qu'eux aussi, le gaz va être utilisé dans un certain nombre de lieux d'assassinat. Tout simplement parce que le gaz a déjà été utilisé précédemment, à partir de septembre 1939, dans le cadre de l'opération que les nazis appellent la T4, l'assassinat de certaines catégories de malades. Et la T4 est relativement connue, notamment grâce au film de Costa Gavras qui s'appelle Amen, où on voit un prêtre catholique incarné par Mathieu Kassovitz qui essaie de mobiliser les foules contre ce qui est en train de se dérouler. Et de fait, la T4 va être arrêtée à l'été 41 à la suite des protestations d'une partie du clergé catholique en Allemagne, notamment par la voix de l'archevêque de Münster, Mgr Galen. Mais dans la T4, le gaz est déjà utilisé. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a, en matière d'assassinat, il y a une filiation. Et donc à Auschwitz, vous avez des SS qui vont avoir l'idée, pour une mission qui n'a rien à voir avec les juifs, les détenus inaptes au travail, d'utiliser du gaz pour s'épargner eux-mêmes. Et à partir de septembre 41, commence à fonctionner une chambre à gaz à Auschwitz, qui fait que très rapidement, ce savoir-faire que les SS développent vont leur voir auprès de leur hiérarchie, vont leur voir ce...
Comment dire ça ? Au fond, c'est une technique qui est approuvée, c'est-à-dire que cette technique distante, anonyme, enfin on verse le gaz dans une chambre. Donc au fond, là, il y a un progrès technique, entre guillemets, qui intéresse le Reich.
Il y a un progrès technique qui intéresse le Reich, et de fait, on confie à la chambre à gaz d'Auschwitz, et non plus au camp de concentration, une nouvelle mission à la fin de l'année 41, c'est de tuer les Juifs de Silésie. On n'est pas du tout dans la dimension européenne de la solution finale, on a affaire à une politique purement locale, mais le savoir-faire développé à Auschwitz lui donne de nouvelles missions. Et lorsque la solution finale est décidée, le Troisième Reich est confronté à un problème. C'est que les grandes masses de juifs à tuer se trouvent dans l'Empire allemand, au sens propre, en territoire allemand, ou alors dans l'Imperium nazi, c'est-à-dire dans les territoires à l'est qu'ils veulent coloniser. Là vont être installés les principaux centres de mise à mort. Sauf qu'il y a un problème. Pour tuer les masses de juifs des communautés périphériques, les Pays-Bas, la France, la Hongrie ou la Roumanie, les Allemands ne sont pas chez eux dans ces territoires. Ils peuvent les occuper, comme c'est le cas en France, mais les populations locales ne sont pas acquises à la politique d'assassinat, que ce soit aux Pays-Bas ou chez nous. Et puis Vichy, même s'il est antisémite, par exemple, ne veut pas tuer les juifs. Il faut donc un lieu idoine, à l'écart de ces territoires-là, donc au cœur du Reich, vers lesquels transférer les juifs extérieurs à l'Imperium pour les assassiner. Et à Auschwitz, du fait de sa situation géographique qu'on a évoquée initialement, est le lieu parfait pour cela. En plus, il est desservi par une voie de communication majeure qui relie tous les points d'Europe. Ils ont développé le savoir-faire de la chambre à gaz, qui fait que le lieu fonctionne très bien, au regard des nazis. Du coup, à partir du printemps 1942, c'est là que vont être déversés les convois des communautés périphériques, c'est-à-dire les petites communautés qui ne sont pas celles du Yiddishland, qui est le gros de la population juive, à l'époque quasiment 8 millions de personnes.
Cette émission s'achève, on va la poursuivre, donc rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission. Nous allons continuer d'explorer et de faire le portrait d'Auschwitz en compagnie de Tal Brüttmann. Merci beaucoup et à très bientôt.
Thank you.